Merci à vous de l'avoir suivi.
Bienvenue à tous sur votre émission hebdomadaire sur la Voix de l'Amérique. Une vingtaine de minutes pour passer au crible l'actu du sport de la semaine. Élisée Rompati en direct avec vous et pour m'accompagner, comme d'habitude dans ce studio, Lawal Dine Kosoro. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
On prend la direction de Columbus dans l'Ohio où se trouve Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
En direct de Kinshasa, en RDC, nous avons Valdo Simbo-Yamba-Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver une fois de plus.
Et puis, on retrouve Amine Birouk à Casablanca, au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Ce soir, nous allons parler de la commission de gouvernance de la CAF qui a validé deux candidatures pour le poste de président dont l'élection aura lieu le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Et puis, le CHAN, c'est le samedi prochain à Yaoundé au Cameroun. Certaines sélections se sont préparées avec des matchs amicaux. Bonsoir et bienvenue sur Sporama. Le championnat d'Afrique des Nations, réservé aux joueurs locaux, démarre le samedi prochain à Yaoundé au Cameroun. Certaines sélections en ont profité pour faire les derniers réglages avec des rencontres amicales. Le cas du Togo, Lawal. Après le refus de la Guinée, les éperviers locaux ont dû jouer deux fois contre leur homologue du Bénin, dirigé par Moussa Latondji.
Oui, Élisée, c'est un match test pour les Togolais, vu que les Béninois ne participeront pas à cette compétition.
Puisque justement éliminé en temps passé.
Et aujourd'hui, ce qui pourrait peut-être faire le bonheur des Béninois, c'est une sorte de revanche que l'équipe est en train de prendre sur son homologue togolais. Vous vous souvenez que les Togolais n'ont pas porté chance aux Béninois dans les matchs officiels, mais pour les matchs amicaux, on a bien l'impression que la revanche est en train d'être prise et ce n'est que du bonheur pour le foot béninois qui, entre-temps, aura perdu un peu de sa qualité.
Les Togolais logés dans le groupe C vont batailler fort pour se qualifier devant le Maroc, le Rwanda et l'Ouganda.
Oui, c'est un groupe, comme on dirait, de la mort pour les Togolais, mais impossible n'est pas Togolais, on le constatera. Ce n'est pas aujourd'hui les équipes professionnelles qui jouent, c'est les locaux. Et vu la qualité du foot marocain, on pourrait peut-être dire que le Maroc n'est pas largement favori, mais les autres équipes ne viennent pas.
Et l'Ouganda
ne seront pas là comme des donneurs de points, elles vont également batailler. Donc la bataille est ouverte, assez ouverte. Le grandissime favori, c'est certainement le Maroc, mais l'Ouganda et le Rwanda ne vont pas se laisser faire, tout comme le Togo d'ailleurs. Et ce sera donc des matchs de très bonne qualité qu'on va voir au cours de cette compétition.
Amine Birouk, deux tests matchs également du Maroc de Youssine Amouta face à la Guinée.
Deux tests amicaux en perspective. Le premier s'est déroulé contre la Guinée. Une rencontre qui a eu lieu ce vendredi, victoire à l'arraché des Marocains de Buzin avec une équipe composée uniquement de remplaçants puisque les joueurs de Berkane et Wydad de Casablanca venaient à peine de rejoindre la concentration et puis ceux du Raja sont encore en déplacement puisqu'ils devraient disputer une rencontre de Coupe arabe ce lundi contre l'équipe d'Ismaili. L'équipe du Maroc est en train de peaufiner ses réglages et logiquement, elle sera au complet lors du match de mardi, de demain, contre la même Guinée, toujours à Rabat. Une occasion pour peaufiner les derniers réglages, travailler les automatismes et arriver le lendemain au Cameroun où l'attend une compétition palpitante avec comme premier écueil le Togo.
Valdo, adversaire de la RDC, le Congo-Brazzaville était à Kigali pour un tournoi qui a réuni trois pays.
Élisée, c'est bien beau leur participation à ces tournois avec notamment les nuls de 2 buts face au Rwanda. Avant le coup du CHAN, ce qui est tout à fait logique pour les Diables Rouges de faire un dernier réglage, autant la RDC aussi va jouer en amical contre la Tanzanie 5 jours avant leur face-à-face. Léopard, Diables Rouges, ça a toujours été un match pris au sérieux par les deux pays et celui-ci donne l'occasion à la RDC de prendre sa revanche quand on sait que le Congo-Brazzaville lui avait privé la participation au dernier CHAN. Les Diables Rouges auront certainement en tête les matchs des quarts de finale de la CAN 2015, rappelez-vous. Match remporté 4-2 par la République démocratique du Congo après avoir été mené 2-0. Un match qui est resté dans les annales du du football africain. Et c'est de bonne guerre que ces deux nations se retrouvent le 17 janvier pour un derby du fleuve version Chan au Cameroun.
Ahmedine Sy, le Cameroun aussi n'est pas resté en marge. Malheureusement, le pays a déçu dans un tournoi qu'il a pourtant organisé.
C'est vrai, Élisée, le Cameroun ne prépare pas de la meilleure des manières le championnat d'Afrique des nations réservées aux joueurs locaux qui débute ce samedi à Yaoundé. En effet, les Lions indomptables locaux ont raté complètement le tournoi de préparation du CHAN dénommé Mini CHAN qu'ils ont organisé ces œufs. Ils ont d'abord concédé un match nul face à l'Ouganda sur le score de 2-1. Ensuite, ils ont concédé 2-1 respectivement face au Niger de 1 et face à la Zambie sur le score de 2-0. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Élisée, la sélection camerounaise ne pourra plus compter sur Christian Mayo. Le milieu de terrain des Lions indomptables locaux a eu une attaque cardiaque lors de la rencontre contre la Zambie. Mais je pense qu'il faut relativiser un peu car ce sont des matchs de préparation et comme son nom l'indique, ça sert à se préparer. Donc l'essentiel est d'être prêt le jour J. Élisée.
Merci à Medine. Pour rappel, le 6e championnat d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Et en attendant, chez les moins de 17 ans, les tournois zonaux de qualification pour la CAN au Maroc se disputent à Lomé, au Togo, en ce qui concerne la zone B de l'UFOA. Dans un contexte de crise sanitaire, l'ensemble du tournoi se déroulera à huis clos, Laval. Là aussi, seuls les deux finalistes seront qualifiés pour la phase finale qui aura lieu au Maroc en mars prochain. Mais malheureusement, le Togo ne sera pas de la partie. Les instances de la CAF ont disqualifié le pays pour tricherie.
Oui, Élisée, c'est bien triste pour le Togo qui avait quand même pendant ce tournoi offert un jeu assez plaisant, assez intéressant.
Et déjà en deux matchs, deux victoires.
Deux matchs, deux victoires. Malheureusement, tous ces résultats vont être annulés parce que l'IRM a révélé que les Togolais ont triché sur l'âge de certains de leurs joueurs. C'est bien triste. On aurait aimé avoir cette compétition-là entre le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce qui allait donner plus de qualité à la compétition. Malheureusement, les Togolais vont devoir donc débarrasser le plancher et aller à la maison. Maintenant, ce qui est important à retenir, c'est pourquoi les Africains ont tendance à souvent tricher sur l'âge. Quand on parle de catégorie d'âge, pourquoi est-ce qu'on a tendance à tricher sur les âges? Je n'ai pas 17 ans, je ne peux pas participer à un tournoi. C'est si simple que ça. Bon, voilà, c'est tout un pays qui en fait les frais. Et
l'autre question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi la CAF a attendu les premiers matchs avant de libérer les résultats de ces examens?
Oui, c'est là aussi, je ne vais pas parler d'incompétence, mais c'est là aussi que les responsables des différentes instances fêtières du foot en Afrique ne sont pas conséquents envers eux-mêmes. Au demeurant, ne devraient peut-être pas libérer les résultats comme cela et
annoncer. Je vais avoir les résultats avant
le démarrage du tournoi et voilà. Savoir ce qu'il faut faire. Maintenant que ça a commencé, les carottes sont cuites et le vin est tiré, les gens n'auront qu'à le boire. Mais au niveau de la Fédération togolaise de foot, je pense qu'on doit pouvoir sanctionner très fort.
Comme ce qui s'est passé au Bénin.
Oui, on doit sanctionner sérieusement parce qu'on ne peut pas continuer pas accepter ces genres de pratiques dans le foot. La triche. Dans le foot, ça rime pas et il vaut mieux arrêter avec ça et faire les choses dans les normes.
Alors Valdo, c'est toujours à Malabo en Guinée équatoriale que la zone UNIFAC livrera ses deux qualifiés.
La Guinée équatoriale a toujours été disponible, Élisée, pour servir la CAF dans ses différentes compétitions. Rappelez-vous de la CAN 2015 qui a été sauvée de justesse par les équato-guinéens après le refus du Maroc d'appliquer cette compétition pour des raisons de crise sanitaire. Depuis, les infrastructures sont toujours disponibles et ces éliminatoires des U17 peuvent, entre autres, donner une plus-value à celle-ci. Après les U20, les U17 s'annoncent aligner deux séries d'éliminatoires en si peu de temps, nous pousse à nous interroger sur les autres pays de la zone, notamment la RDC et les Cameroun qui, d'ailleurs, accueillent finalement les CHAN avant la CAN pour ne citer que ces deux pays-là, d'une part, et de l'autre, satisfait de la première organisation, la CAF n'a peut-être pas voulu prendre les risques avec un autre pays quand on sait que Covid-19 fait encore rage.
Amine Birouk, c'est l'Algérie qui abritera le tournoi qualificatif de la zone UNAF le 17 janvier prochain.
Tout à fait. C'est l'Algérie qui abrite ces éliminatoires en prévision de la CAN qui aura lieu au Maroc. Le Maroc n'est pas présent lors de ces qualifications. Il s'est contente de rencontres amicales. La dernière en date a eu lieu ce samedi face au Sénégal avec une victoire des Lionceaux de la Teranga sur le score de 1-0. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a qu'une seule place à prendre pour quatre nations qui devront disputer ce tour qualificatif. Le pays organisateur, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. A priori, c'est l'Égypte qui part favorite, mais attention, l'Algérie est capable, dans un bon jour, de pouvoir, ou dans deux bons jours, de pouvoir obtenir son sésame.
Les interclubs de la CAF entrent désormais dans leur phase finale à l'issue des matchs retour du deuxième tour préliminaire. Et on connaît désormais la composition des groupes en Ligue des Champions et les confrontations du tour de cadrage en Coupe CAF à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu au Caire en Égypte en Ligue des Champions. Amine Birouk, quatre groupes équilibrés sans le Raja reversé en Coupe CAF.
Mission assez compliquée pour le Wydad de Casablanca qui aura dans son groupe le Royal Conakry, un adversaire qu'il connaît très bien. Il y aura également les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et puis l'équipe de Petro Atlético, adversaire également des vice-champions du Maroc lors de la précédente édition. On se rappelle que les Marocains avaient gagné 4-1 à Casablanca avant de réussir un match nul à Luanda. De vieilles connaissances. Par contre, en Coupe de la CAF, le Raja va découvrir l'Union Sportive de Monastir. On se rappelle que les Rajaouis ont subi un véritable accident industriel avec une élimination face à Tunguet sur un terrain impraticable. Et puis, le petit poussé, le TAS de Casablanca, va devoir défendre crânement ses chances en Zambie face au fameux Nkana Red Devils. A priori, les deux clubs marocains ont de fortes chances de figurer dans la phase de groupe de cette Coupe de la CAF, où la Renaissance Sportive de Berkane, en tant que tenant du titre, profite du forfait du représentant tchadien pour pouvoir déjà se qualifier à cette phase de qualification.
À Medine Sy, la première expérience des Sénégalais de Tunguet s'annonce difficile au vu des adversaires qu'ils auront à affronter.
Tout à fait, Élysée, car les poulains de Youssouf Dabo qui ont créé la sensation des éliminatoires en écartant le Raja de Casablanca sont tombés sur un groupe très difficile, Élysée, composé de trois clubs maghrébins, Zamalek, Espérance de Tunis et Moudia. Ces trois grands clubs d'Afrique, des clubs bien organisés qui ont beaucoup de moyens. D'ailleurs, Zamalek est le vice-champion d'Afrique en titre. Espérance de Tunis également a été champion en 2019 et 2008. Mais en sport, surtout en football, le fait d'avoir des grosses pointures est toujours une source de motivation supplémentaire. Et Tenguet vient de le prouver en éliminant non seulement le Raja. Donc Tenguet tentera de poursuivre sa lancée pour décrocher une qualification. Mais j'avoue, Élysée, que ce sera très difficile.
Valdo, V-Club et Mazembe partagent respectivement le groupe A et B. En Coupe CAF, le Daring Club Motéba Pembe jouera les Libyens de Benghazi pour une place en poule.
Élysée, la Ligue Benghazi reste un adversaire de taille pour le Daring Club Motéba Pembe dans ses barrages, après bien sûr sa prestation en 16e de finale de la Ligue des Champions. Le club de l'RDC de son côté peine à jouer à domicile et doit tout faire pour son match en déplacement afin d'espérer accéder en phase des groupes pour la deuxième année consécutive. En Ligue des Champions, avec le dans le groupe A, c'est que rien ne sera facile face au champion en titre et le mieux capé des clubs dans cette compétition avec ses 9 titres, le National Al Ahly. Donc, Simba de la Tanzanie et le Merrek du Soudan se tiennent également en embuscade pour tenter de déjouer à la fois Al Ahly et V-Club. Du haut de ses 5 titres, Mazembe, tête de série du groupe B, n'a pas droit à l'erreur, notamment face aux Sud-Africains de Sundowns, Al Hilal du Soudan et les Algériens de Bel Ouizdad qui signent leur retour dans cette phase des groupes.
Voilà qui est clair. Merci Valdo. Maintenant Lawal, la commission de gouvernance de la CAF, réunie aussi au Caire, a effectué les contrôles d'éligibilité des candidats pour les postes de président et des membres du comité exécutif de la CAF. Comme on devrait s'y attendre, le dossier du président sortant Ahmad Ahmad n'a pas été validé.
Ce serait scandaleux de valider un tel dossier. Ce serait vraiment scandaleux pour la CAF. Heureusement que la commission gouvernance a réussi à avoir la tête sur les épaules. Mais il faut que cette commission aille encore plus loin parce que la candidature du Mauritanien devrait aussi logiquement être validée normalement, c'est vrai.
Puisqu'il est impliqué dans cette affaire.
Impliqué dans l'affaire qui a emporté Ahmad Ahmad. C'est peut-être ça qui motive cette réserve portée contre son dossier. dossier qui sera donc validé ou non après vérification plus profonde. Donc on espère que les acteurs du foot au niveau de l'Afrique vont trouver les meilleures formules pour assainir désormais le monde du foot et ne plus laisser des corrompus, je vais le dire comme ça, gérer le foot au plan africain.
On revient vers vous, Amine. Les candidatures de Patrice Motsepe et d'Amel Dayahia ont été jugées recevables sous réserve de nécessaires vérifications complémentaires avant une décision finale.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux candidatures qui sont déjà reconnues et retenues, celle de Jacques Hanouma et d'Augustin Senghor, et que celle d'Ahmed Yahia et de Patrice Motsepe devraient repasser leur tour jusqu'à la séance ou à l'audition du 28 janvier prochain. Est-ce une façon de les écarter implicitement, sachant qu'il y a un bras de fer entre la CAF et la FIFA, et que ces deux candidats passent pour être les favoris de Gianni Infantino? Dans cette guerre froide entre les deux instances, celle qui régit le football continental et le football mondial, il va y avoir un nouveau round, et il aura lieu le 28 janvier prochain.
Valdo, par contre, rien n'a signalé dans le dossier de Jacques Hanouma. L'Ivoirien est déclaré éligible.
Si rien n'est reproché à sa candidature à l'issue de cette réunion de contrôle d'éligibilité du candidat, Élysée, je pense que Jacques Hanouma est donc aligné parmi les candidats en course au poste de président de la Confédération africaine de football. Je vois mal que cette situation ne puisse changer la veille des élections. Hanouma va donc prétendre, comme les autres candidats, à une possibilité de succéder à Armand Labad, ce qui est une très bonne chose parce que il avait déjà lancé sa campagne électorale. La suite des événements nous laisse croire que Jacques avait la certitude que sa candidature n'allait souffrir d'aucune contestation. Voilà pourquoi il s'y était pris à temps et il a certainement une longueur d'avance sur les autres candidats en termes de campagne.
Voilà Medine. Et comme Hanouma, le patron du foot sénégalais, Augustin Senghor, sera aussi de la partie.
Oui, Élysée, la commission gouvernance de la Confédération africaine de football a validé sa candidature. Pour moi, ce n'est pas une surprise, mais le plus difficile reste à venir, Élysée. D'ailleurs, le président de la Fédération sénégalaise de football est conscient de cela, car il a déclaré, après la validation de sa candidature, qu'il ne s'agit que du début du chemin menant aux élections prévues le 12 mars. D'ailleurs, l'objectif est de convaincre maintenant le maximum de fédérations à voter pour lui. Une mission qui sera très difficile car Jacques Hanouma reste un sérieux adversaire Élysée.
A signaler qu'une audition sera organisée au Caire le 28 janvier prochain pour la validation finale des dossiers et également la présentation des projets. Élection également au Sénégal et le président fondateur de l'Académie Génération Foot, Madi Touré, a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football prévue en août prochain. L'opposant numéro 1 de Maître Augustin Senghor, actuel président de la Fédération, a déclaré que cette candidature est un signe d'espoir. Il l'incarne et la porte pour la famille du football sénégalais et pour la fierté du peuple. Alors, Amédine Sy, est-ce une surprise?
Non, Élysée, la candidature de Madi Touré n'est pas une surprise pour moi, car le président de Génération Foot a déjà été candidat à la tête de la Fédération sénégalaise de football, c'était en 2013, et il a été battu par l'actuel président, Maître Augustin Senghor. C'est vrai qu'il ne s'est pas présenté en 2017, mais cette fois-ci, peut-être il pense qu'il a ses chances, parce que d'abord, Maître Augustin Senghor ne devrait pas briguer un troisième mandat, mais sachez également que Madi Touré n'est pas n'importe qui dans ce football. Non seulement il a créé Génération Foot, mais Madi Touré est dans le foot depuis plus de 30 ans et son club Génération Foot est devenu vraiment un très grand club, un club formateur, mais un club de référence. D'ailleurs, c'est le club qui a formé un certain Sadio Mané Élysée.
Amine, le fait que Senghor ne sera plus candidat, puisque ne pouvant pas briguer un troisième mandat, place le président de l'ancien club de Sadio Mané dans une position de favori.
C'est l'occasion pour Madi Touré de corroborer sur le plan national ce qu'il a effectué avec son club, Génération Foot, qu'il a transformé en bastion fort du football sénégalais. Il a parlé de candidature de l'espoir. Aujourd'hui, il représente une rupture par rapport à la gestion de Maître Augustin Senghor, qui a fait deux mandats et qui, cette fois-ci, brigue la présidence de la CAF. Aujourd'hui, le football sénégalais a besoin de clubs plus performants, de sélections locales et de sélections de jeunes également à la pointe du football africain. Ce qu'a réussi Augustin Senghor, c'est de mettre les Lions de la Teranga, l'équipe A, en vitrine du football sénégalais. Il va falloir maintenant travailler à la base et permettre à ce Sénégal des potentialités de briller enfin dans toute